c'est une étape significative qui a été franchie jeudi et vendredi dernier à l'occasion du 4e colloque international sur le changement climatique dans les zones de montagne. Le projet ADAPIR de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique a réuni les acteurs du territoire pyrénéen à Bilbao. Notre invité de ce matin y était. Bonjour Raphaël Delpy.
Oui, bonjour.
Vous êtes chargé de projet Raphaël Delpy pour le regroupement des acteurs forestiers pyrénéens, Forespire. Avant de nous intéresser plus particulièrement aux forêts des Pyrénées, voyons en quoi consiste ce projet ADAPIR. Quels sont les signaux qui ont justifié de se mettre autour de la table pour protéger les Pyrénées?
Oui, bien donc on a plusieurs signaux en fait. Hein, l'Observatoire pyrénéen du changement climatique a été lancé en 2010. Donc c'était en fait un ensemble de, j'ai envie de dire une prise de conscience un peu générale avec des signaux comme les différentes conférences mondiales pour le climat, les rapports du GIEC, qui ont entraîné en fait plus des questionnements. Et je pense que les acteurs pyrénéens, les institutions, à un moment se sont dit il faut aussi qu'on observe ce qui se passe chez nous pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe en fait dans ces changements. Et donc cet observatoire a été lancé par la communauté de travail des Pyrénées, qui est en fait un ensemble de toutes les collectivités régionales ou les autonomies espagnoles qui ont un lien avec les Pyrénées. Donc Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Catalogne, Aragon, Navarre et Pays Basque espagnol. Donc cet observatoire a été lancé en 2010 sous la présidence de Martin Malvy.
D'accord. Concrètement, vous, puisque vous travaillez dans les Pyrénées, qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement sur ces 10 dernières années ?
Alors, moi je travaille plus particulièrement, on en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, plus particulièrement sur la forêt. Donc sur la forêt, en fait, on a une contrainte, j'ai envie de dire, c'est qu'on travaille dans un pas de temps qui est extrêmement long. On travaille sur un pas de temps qui va de 60 à 120 ans. Donc on observe en fait des changements, mais pour lier directement tous ces changements à un changement climatique, on a besoin d'étudier, d'analyser à long terme en fait. Donc on a commencé ces études-là, mais là ce qu'on commence à observer par exemple en ce moment, c'est qu'on a des on appelle ça des défoliations, c'est-à-dire un manque de feuilles qui serait plutôt anormal sur certaines parcelles qui sont suivies dans toute la chaîne pyrénéenne. Et ces défoliations, on s'aperçoit qu'elles vont augmentant sur ces 15-20 dernières années.
Donc les arbres,
on a des éléments comme ça, et ensuite on est aussi le changement climatique, c'est aussi un des facteurs. On va dire que les difficultés des forêts sont souvent multifactorielles. Et si vous voulez, vous pouvez par exemple avoir des stress hydriques, plusieurs années de sécheresse, qui vont affaiblir les arbres, qui seront pour le coup plus sensibles à certains pathogènes, champignons. Donc on observe quand même ces différences-là, pas sur toutes les essences. Il y a des variations selon l'endroit où on se situe dans les Pyrénées aussi, hein, versant sud, versant nord, partie est ou ouest.
Oui, parce que c'est pas la même température au nord et au sud.
Voilà, il y a une très importante diversité de situations en fait dans les Pyrénées.
Oui. Alors, quelle est la feuille de route de ce projet de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, ce projet ADAPIR, maintenant qu'il a constaté justement toutes ces difficultés et ces changements, les conséquences des changements climatiques sur les Pyrénées, pardon.
Alors, ce projet ADAPIR, en fait, il a abouti à l'élaboration d'une stratégie pyrénéenne pour le changement climatique. Qui est structuré, on va dire, en 5 axes importants, donc qui sont assez généralistes. Hein. On parle de mobilité, de connectivité en termes de transport d'énergie. On parle beaucoup aussi de développer la connaissance sur le changement climatique. C'est un élément qui est majeur, qui est vraiment stratégique. De gestion durable des ressources naturelles, des services écosystémiques, de la biodiversité, de la transition écologique, d'intégration des risques liés au changement climatique dans la gestion des territoires, hein, dans la planification, l'aménagement. Et enfin, une partie qui est très importante aussi, c'est la sensibilisation, la communication et l'éducation à l'environnement.
Donc ça, ce sont des grandes lignes. Donc c'est ce qui a permis, hein, ce travail commun, non seulement de développer des méthodologies communes, mais aussi d'utiliser une même base de données climatiques. Concrètement, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner dans ces grandes lignes directrices, dans ces grandes actions? Qu'est-ce qui a été décidé jeudi et vendredi?
Alors, il faut savoir que la stratégie pyrénéenne n'est pas un outil normatif, c'est-à-dire il va pas s'imposer
Ce sont des
légalement. Donc,
conseils alors,
ce
des
sont des
recommandations.
conseils et c'est surtout mais des recommandations qui sont quand même acceptées par toutes les institutions dont je parlais tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, on a quand même l'intérêt principal de cette stratégie, c'est d'avoir une cohérence d'action avec tous les acteurs impliqués sur le territoire là, qui sont conscients, qui se sont mis d'accord pour respecter ces lignes-là. Donc, en termes d'exemples un peu plus concrets, par exemple, donc, enfin, vous m'excuserez, je reviens à ma forêt
Ah
parce
ben
que c'est
oui, bien
un
sûr.
sujet que je maîtrise mieux, mais voilà, par exemple, on a élaboré des lignes directrices à deux échelles d'intervention, une échelle pour qui est plus du conseil pour les politiques publiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle essentiel d'orientation des financements vers certaines actions. Donc nous, on essaie de mettre en avant les plus stratégiques. Donc dans ce cas-là, par exemple, ça va être toujours ce dont je parlais, hein, l'acquisition de connaissances sur le changement climatique à travers une diversité d'indicateurs, dont on pourra reparler aussi tout à l'heure
Oui,
si vous
tout
voulez.
à fait.
On est aussi dans le renforcement des capacités d'anticipation de gestion des risques. Par exemple, on s'attend à ce que le risque incendie soit plus important à l'avenir dans les Pyrénées que ce qu'il
Oui,
était jusqu'à
avec la
présent.
sécheresse.
Exactement. Et sur des territoires qui n'étaient pas du tout exposés jusqu'à présent. Donc un risque ne s'étant jamais produit, pour la plupart des gens, il n'existe pas. Mais on s'attend quand même à ce type
Vous
de risque et il
l'envisagez,
faut y travailler.
bien
Il
sûr.
faut y travailler. Et ensuite, en fait, il y a un gros travail à faire sur le développement, le renforcement des réseaux. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce sujet, de manière directe ou indirecte, de manière plus ou moins structurée, par différents moyens. Et il y a de gros enjeux en fait à un peu concentrer, capitaliser toute cette connaissance qui se crée sur le territoire des Pyrénées.
Raphaël Lelpi, vous êtes particulièrement chargé du projet donc pour le Forespire. Là, vous le disiez, c'est un groupement franco-espagnol andorran hein, qui a été créé en 99 par les principaux acteurs forestiers du massif des Pyrénées. Outre ce que vous avez un petit peu dévoilé maintenant, quel est son but précis?
Alors, à Climafort, c'est un projet, c'est une deuxième génération de projets forestiers sur le changement climatique dans les Pyrénées. On travaille sur trois axes. Donc le premier, c'est les fameux suivis indicateurs du changement climatique. C'est-à-dire, on va chercher à connaître quel impact que fait le changement climatique sur nos forêts. Donc pour ce faire, on a trois modes de surveillance, on va dire. Le premier, c'est la phénologie, c'est-à-dire on va regarder chaque année sur les principales essences forestières à différentes altitudes à quelle période elles débourrent, c'est-à-dire à quelle période le bourgeon se transforme en feuille. On étudie ça sur les principales essences forestières, donc à enjeu productif aussi, hein.
Donc là,
Donc on
vous avez
parle
des
de
zones qui sont délimitées avec une essence par zone et vous voyez justement cette date
Tout à fait.
du
On
déboure.
a un réseau de 63 placettes réparties sur les Pyrénées, avec pour chaque essence plusieurs altitudes. Et donc en fait, ça nous fait un suivi qui est un peu plus de quasiment 2500 arbres, on va dire, qui au printemps, toutes les semaines, sont suivis pour voir à quel stade ils en sont. Et ces suivis ont commencé en 2013. Et là, on commence à avoir des tendances, mais on revient au temps long dont je vous parlais tout à l'heure. On a besoin de beaucoup plus de temps, beaucoup plus de recul pour voir ce qui est significatif. On s'aperçoit que, par exemple, sur certaines essences, on a une avancée, sur d'autres, c'est en dents de scie. Donc, on a besoin de ça. Ça,
Oui,
c'est le
c'est
premier
intéressant
aspect.
ce que vous dites, parce que vous dites qu'il y a une avancée sur certaines essences. On a plutôt l'impression, avec cette hausse de température, que les arbres bourgeonnent beaucoup plus tôt. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas sur toutes les essences dans les Pyrénées.
C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Toutes les espèces forestières n'ont pas le même comportement, hein, déjà, par rapport à ce débourrement. Donc il y en a qui vont être plus sensibles à la météo, d'autres beaucoup moins, ou alors c'est des choses qui vont se lire à long terme.
D'accord.
Ça, c'est le premier suivi. Le deuxième type de suivi qu'on fait, c'est on a essayé de regarder qu'est-ce qui se passait dans l'évolution. Alors on appelle ça des cortèges floristiques forestiers, c'est-à-dire dans un peuplement forestier, on a une certaine quantité de végétation dans le sous-bois, et donc on a cherché à regarder au travers de très nombreux inventaires qui ont été faits sur les Pyrénées. Est-ce qu'on a des évolutions? Est-ce qu'on a des remontées en altitude, par exemple, de certaines essences? Est-ce qu'on a des déplacements vers l'est, vers l'ouest? Donc ça, on a des résultats qui sont un petit peu contre-intuitifs finalement.
Oui, par exemple, qu'est-ce que vous avez déjà constaté?
Ben, par exemple, on a des baisses d'altitude sur certains végétaux. On s'attendra à ce qu'ils remontent avec le réchauffement, mais on a observé ce type de baisse. Et alors là, l'explication qu'on aurait jusqu'à présent, hein, qui a déjà été relevée dans d'autres études aussi sur le massif alpin, il me semble, par exemple, c'est on est ici encore sur quelque chose qui est multifactoriel. Et donc on a sur ces territoires de montagne, on a une déprise agricole, et la déprise agricole libère des espaces que la forêt vient coloniser.
Qu'est-ce que vous
Donc
appelez
la question.
déprise agricole, pardon?
Alors, déprise agricole, c'est qu'on a des abandons de parcelles qui étaient cultivées, qui étaient pâturées auparavant, et qui, par dynamique naturelle, sont colonisés par la forêt.
D'accord.
Et donc on se demande en fait si cette déprise-là ne vient pas totalement gommer en fait le deux possibles montées en altitude de certaines espèces.
Bien sûr.
Dernier élément dont je vous ai parlé un petit peu
Oui,
tout à l'heure,
troisième
qu'on
action.
surveille, c'est en fait c'est l'évolution des défoliations. Donc là, c'est un peu ces pertes en
Défoliation, c'est quand
feuilles.
les arbres perdent leurs feuilles, c'est ça?
Voilà, de manière plus ou moins anormale. Donc ça, c'est quelque chose qui, par contre, est là très parlant sur les 10 dernières années. On a clairement des pertes en feuilles qui sont pas normales, quoi. Et
Ça
avec
n'arrive pas qu'à
ici encore
l'automne.
des... Non, 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 non. On parle de défoliation en période de végétation, hein. Et donc on a un effet qui est beaucoup plus marqué sur le versant nord et côté méditerranéen que versant sud. Et donc là, en fait, on se demande si sur le versant sud, il n'y a pas déjà eu un tri génétique, on va dire, dans les populations forestières, parce que c'est un
C'est-à-dire
secteur
que
qui est beaucoup
les
plus
arbres
exposé aux sécheresses.
ont déjà été invités, enfin se sont déjà adaptés au réchauffement climatique, c'est ça que ça voudrait
Alors,
dire?
disons que en dynamique naturelle, c'est plutôt que ceux qui n'étaient pas adaptés n'ont pas survécu, donc ne
Oui,
se
c'est
sont pas
ça.
reproduits. Et on se demande si sur le versant nord, ben, ce tri n'est pas en cours, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la première action. Deuxième action, on met en place aussi des actions de gestion concrètes, hein, sur le terrain, c'est-à-dire on s'est mis d'accord avec tous les partenaires forestiers. On a des zones qui sont connues comme critiques, ou alors c'est des zones où on observe des dépérissements de peuplement forestier, donc dépérissements en cours où on sent que ça va pas tarder. Là, on a mis en place des opérations pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la forêt pour améliorer le taux de survie, on va dire, des arbres sur ces situations de tension qui sont en général plutôt liées au manque d'eau. Hein.
Et par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire parce que vous n'allez pas arroser tous les arbres des Pyrénées?
Alors non, 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 on
Ce
n'arrose pas
serait
les arbres.
fastidieux.
Non, non, on travaille vraiment sur d'abord sur un choix d'essence qui va être compatible avec la station forestière, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est l'endroit où le peuplement est situé.
Dans les plantations alors, oui.
Alors plantation ou régénération naturelle aussi,
Oui,
hein.
d'accord.
Et ce qu'on va faire en général, là par exemple les actions sylvicoles, ça va être des éclaircies, c'est-à-dire on va supprimer un certain nombre d'arbres autour de ceux qu'on souhaite maintenir à long
Préserver.
terme. Dans différents et en fait on va faire ces éclaircies dans différentes proportions, en visant une même essence, en visant d'autres essences, etc. Pour voir quel impact a cette opération-là sur la disponibilité en eau pour l'arbre qu'on souhaite voir maintenu.
Donc ça, vous le faites sur des petites zones. C'est en
Alors
fait
c'est
des
des
zones de test.
oui c'est des alors petit fait un petit ça dépend de ce qu'on entend par petit,
Oui,
mais
j'imagine que
en
oui.
moyenne on est sur des placettes qui sont on a 2-3 hectares
Oui.
d'essai, 2-3 hectares de témoins. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Et donc ça c'est un réseau de placettes qui a été initié par le projet précédent qui s'appelait Canopée, qu'on a étoffé avec Aclimafort. Donc là on arrive à un réseau de 25 sites, on va dire, un peu expérimentaux en termes d'action sylvicole. Qui seront suivis à long terme et qui pourront servir aussi un peu de terrain atelier, j'ai envie de dire, pour les forestiers qui voudraient voir condamner ces opérations à long terme. Voilà, l'idée c'est voilà, créer ce réseau-là pour le mettre à disposition de la communauté forestière pyrénéenne.
Voilà un travail passionnant. Merci beaucoup Raphaël Delpy pour ces précisions sur ce projet pour protéger les forêts des Pyrénées. Et puis nous reviendrons certainement vers vous pour avoir la suite de vos investigations. Merci.
Merci à vous.